Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est l'enregistrement de Donuton Camille, réalisé le 17 septembre 2009.
Parole de résistants et déportés en Dordogne. Le 17 septembre 2009, Monsieur Camille Donuton, à Ruelle-sur-Touvre, en Charente. Monsieur Donuton, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, nous expliquer où et quand vous êtes né?
Oui. Alors, je suis né le 19 janvier 1922 à Saint-Saulx-la-Coussière, en Dordogne. Je suis resté là-bas jusqu'à l'âge de 6 ans. Et à 6 ans, j'ai rejoint la ville de Nontron, où j'ai fait mes études primaires. Je dois dire que mon père est décédé à l'âge de 24 ans, en 1924. Il était gazé pendant la guerre, et ma mère était donc veuve et s'est remariée avec un agriculteur qui habitait Nontron. Et j'ai passé ma jeunesse à Nontron. À partir de 6 ans, j'ai passé toute ma jeunesse à Nontron, jusqu'à 14 ans, où je suis rentré à la fonderie d'Hervel, qui est un établissement qui travaillait pour la marine nationale, comme un arsenal, quoi.
Avez-vous des souvenirs de votre père?
Non, aucun. J'avais deux ans. Je suis né le 19 janvier 1922 et lui est mort en 1924. Je n'en ai aucun souvenir. Je ne peux pas, j'avais deux ans, ce n'était pas possible.
Et quelle était la profession de votre mère? Quelle était son activité?
C'est-à-dire que ma mère était fille d'agriculteur, quoi. Elle habitait à Saint-Saulx, elle était fille d'agriculteur, et c'est vrai, avec mon père, lui, était menuisier. Mais il n'a pas vécu longtemps pour pouvoir, évidemment, assurer la famille, quoi. C'était pas possible. Alors c'est pour ça qu'elle s'est remariée, mais bien plus tard, en 1930, avec un agriculteur qui habitait Nontron et qui, en principe, c'est lui qui m'a élevé, quoi. Je suis fils unique, bien sûr. Je ne peux pas dire grand-chose d'autre, quoi.
Donc l'activité de votre famille était liée aux revenus de l'agriculture, du travail de la terre.
Oui, c'était des agriculteurs. Ces agriculteurs, ils étaient fermiers à Nontron, quoi. Enfin, à proximité, la ville de Nontron, quoi. Puis ils étaient au champ de foire de Nontron et ils sont restés là jusqu'à à l'âge de la retraite, quoi. Que dire là-dessus?
Le champ de foire de Nontron, c'est le lieu dit, c'est le...
Oui, c'est le lieu dit de la ferme. C'était là où ils habitaient, et puis les champs étaient à proximité, quoi.
Et en un mot pour votre maman, entre le moment où elle s'est remariée et le décès de votre père, quelle était son activité, quels étaient ses revenus?
Ah bien, elle travaillait avec ses parents.
À la ferme.
À la ferme, oui, à la ferme. Mais alors là, à la ferme à Saint-Saulx. À Saint-Saulx jusqu'à je me rappelle, 1928, qu'ils sont partis de Saint-Saulx. Ils ont rejoint Nontron et ils avaient également une ferme, et c'est là où ma mère s'est remariée.
Vous indiquez que votre père a fait la Première Guerre mondiale et a été gazé, a été victime de la guerre. Est-ce que votre mère vous parlait de votre père et de sa participation à la Première Guerre mondiale?
Oh, oui, c'est-à-dire que J'étais très jeune, elle n'en parlait pas beaucoup, mais j'en ai surtout entendu parler par la suite, par son mari, qu'elle avait épousé étant veuve. Lui, il avait fait la grande guerre du 14-18, il avait fait Verdun, il avait été blessé, et il en parlait souvent. Surtout avec ses amis, ses camarades qui passaient à la maison, c'était des fois en soirée, c'était pour la veiller, il parlait de ça, ce qui m'a d'ailleurs donné l'idée de ce qu'avait été la guerre de 14-18, l'horreur de cette guerre.
C'est quelque chose dont vous avez de bons souvenirs, ça vous a marqué.
C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je vous ai dit tout à l'heure, bon, malgré ce qu'il a dit, je n'avais pas de haine envers les Allemands, mais déjà une certaine aversion. Aversion d'une part parce que mon père était mort des suites de la guerre, et d'autre part parce que le mari de ma mère avait fait cette guerre et qu'il en parlait souvent avec ses camarades. Expliquer ce qu'avaient été les tranchées, enfin, où il avait été blessé.
Est-ce que vous avez des souvenirs liés aux événements des années 1930, les événements politiques qui sont intervenus dans le milieu des années 30 et jusqu'à la déclaration de guerre?
Ah oui, j'étais jeune, mais enfin, j'ai entendu parler de la politique de l'époque, quoi. Et je me rappelle avoir entendu parler des journées de 1934, où une partie voulait s'emparer du pouvoir, en quelque sorte, les années de 30. Et surtout, également plus tard, en 36, c'était, j'avais alors 14 ans, et c'est à ce moment-là que je suis rentré à l'établissement naval de Revel, où là, j'ai beaucoup entendu parler de la situation politique en France et dans le monde. Je me rappelle très bien, par exemple, de la guerre d'Espagne, enfin, de ce que j'ai pu apprendre sur la guerre d'Espagne. On en parlait beaucoup. Dans les syndicats, ça, c'était quand même une affaire importante, quoi. Et je me rappelle avoir entendu parler des différends qu'il y avait avec le gouvernement et les partis politiques qui voulaient aider l'Espagne républicaine. Ça, je m'en rappelle très bien.
On parlait politique, donc, chez vous, dans votre foyer?
Pas tellement dans mon foyer, non, parce que là, à ce moment-là, je n'étais plus avec mes parents. Je vivais à Revel, déjà. En 36, je suis rentré à la Vendrée. En 36, et bien, j'étais en pension, dans une pension de famille à Revel, et c'est là où j'allais à Nonton passer les week-ends, c'est tout, quoi. Non, dans la famille, non, mes parents ne s'occupaient pas beaucoup des événements à l'époque, vous savez. Il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas, enfin, des journaux, il en avait, mais c'était quand même relativement cher pour une famille d'agriculteurs, parce que ça gagnait pas bien sa vie, l'agriculture à l'époque, et même encore d'ailleurs. Voilà.
Et donc c'est à Revel que vous avez pris connaissance avec le mouvement du Front Populaire.
Exactement, c'est à Revel que j'ai connu ces événements qui ont emmené le Front Populaire et ses avantages à ce moment-là.
Est-ce que vous pouvez décrire ce qu'était Revel dans le milieu des années 30? Parce que le département de la Dordogne est essentiellement rural et agricole. Et il semblerait que Revel en Charente était un petit centre industriel.
Ah oui, Revel était très, très, très industriel. C'était une fabrique de matériel pour la marine de guerre, fabriquer des canons. Il y avait quand même 2000 ouvriers. C'était une usine qui avait été créée par le marquis de Montalembert, l'année, je ne me rappelle plus, en 18 et quelques, et qui avait toujours progressé. Je vous dis, l'État, il y avait au moins 2000 ouvriers, quoi, à l'époque. Ouvriers qui, et en 36, qui, ça s'est même embauché de plus en plus.
Est-ce que c'est un choix de votre part ou de votre famille que de vous diriger vers, vers un apprentissage industriel ?
Bien, c'est-à-dire que à ma sortie de l'école primaire, bon, j'ai passé certains concours, notamment les bourses, et également le concours sur, pour des apprentis à Arvel, parce que j'avais enfin, des camarades qui étaient plus âgés que moi, qui étaient déjà embauchés à Arvel, qui étaient passés par l'école des apprentis d'Arvel. Et cela a donné l'idée à mes parents de me présenter au concours pour l'école des apprentis d'Orwell.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une volonté de vous de ne pas vous envoyer travailler dans le monde agricole et de davantage vous tourner vers l'industrie ? Ou est-ce que c'est le hasard ?
Ah ben, c'est-à-dire c'est un peu le hasard. À l'époque, vous savez. Les parents cherchent toujours à ce que leurs enfants puissent avoir une vie meilleure que celle qu'ils avaient. Et la vie des agriculteurs à l'époque n'était pas agréable. Alors bon, pour moi, ils m'ont fait rentrer à la fonderie d'Orwell pour que je sois un peu mieux quoi, dans la vie.
Et vous aviez donc 14 ans en 1936, et vous travaillez dans l'industrie, c'est pour nous, notre regard aujourd'hui, c'est très jeune. Quelle était votre activité? Que faisiez-vous dans cette industrie?
C'est une école d'apprentis qu'il y avait à Arvel, qui faisait pour l'établissement presque tous les métiers. Ajusteur, fraiseur, tourneur, il y avait des mouleries, également mouleurs, des forges, forgerons, chose qui maintenant a disparu, bien sûr, mais qui à l'époque était très importante. C'est important. Et moi, je n'ai pas choisi. On m'a dit, bon, bah, tu vas être ajusteur, et j'ai appris le métier d'ajusteur. Voilà.
C'était une école qui était au sein de l'entreprise ?
C'était une école d'apprentissage, oui. C'était une école d'apprentissage qui était très, très importante. Très importante. Elle était même renommée, cette école d'apprentissage. Ah oui, 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 oui. Mais alors, l'école, les... Ils étaient embauchés, enfin, les élèves étaient embauchés ensuite à l'âge de 18 ans. Ils passaient ouvriers dans l'établissement.
Et cette école, c'était un établissement public ou c'était...
Non, c'était... Enfin, oui, ça appartenait au ministère de la Marine, au ministère de la Guerre. C'était le ministère de la Marine pour l'armement, quoi. On appelait ça à ce moment-là, ce qu'on appelait les travailleurs de l'État.
Et dès votre arrivée dans cette institution, dans cette école, vous parlez politique, vous sentez qu'il se passe quelque chose ?
Non, on était quand même un peu jeunes, mais progressivement, on a vu l'action des syndicats. À ce moment-là, je pense qu'il n'y avait qu'un syndicat, c'était la CGT, mais qui quand même manifestait ses opinions, notamment au moment du Front populaire.
Est-ce que, à l'arrivée du Front populaire, lorsque le Front populaire est élu, vous étiez à Ruelle, c'est bien cela ?
Ah oui, au moment du Front populaire, j'étais apprenti, c'est en 37, quoi, en quelque sorte. J'étais apprenti à ce moment-là, j'étais apprenti de 36 à 40, à l'âge de 18 ans, je suis passé ouvrier juste pendant la guerre, quoi, disons.
Et quelle était l'atmosphère ? Est-ce que vous ressentiez quelque chose de particulier après ces élections de 1936 auprès des ouvriers ?
Oh, bien, quand même, bien. Comment dirais-je ? C'était vraiment quelque chose de magnifique pour eux. Les congés payés, pour les vacances, tout ça, c'était très, très important. C'était très important, c'était un avantage matériel appréciable, quoi.
Certains ont parlé d'une très grande joie dans le monde ouvrier de cette élection. Oui. Est-ce que ça se ressentait vraiment?
Ah oui, ça se ressentait, Ravel, surtout que c'était, disons, l'établissement le plus aisé, quoi, de la Charente, quoi. Les salaires étaient guidés par des salaires de la région parisienne. Alors quand même, pour la Charente, c'était très, très important. C'est-à-dire que, beaucoup, disons que c'était à ce moment-là, c'était quand même des ouvriers aisés. Aisés. D'ailleurs, beaucoup autour d'Orwell possédaient une ferme et venaient travailler à l'usine. Et puis, enfin, d'autres... la paye suffisait largement à ce moment-là.
Et lorsque vous terminez votre apprentissage, vous êtes ajusteur dans cette industrie.
Oui,
quel est votre travail? Vous pouvez le décrire en quelques mots?
Ah, mon travail, c'est très difficile à expliquer, parce que j'étais affecté à ce qu'on appelle le montage du matériel. Le matériel, c'était des canons. Mais on travaillait pour des canons pour la marine. Et j'étais affecté au montage de ces matériels. C'est-à-dire qu'on fabriquait, en quelque sorte, on fabriquait des canons, on faisait les essais, et après ils étaient embarqués sur les bateaux à Rochefort.
Donc c'était un travail très important pour la défense nationale.
Ah, c'était très très important, ah oui, c'était très important. Il n'y avait que cet établissement, en quelque sorte, qui travaillait pour des matériels. C'est eux qui ont fait les 380 du Jean-Bart. C'est très important. C'est jusqu'à ces dernières années où ça a changé de 2000 ouvriers. L'établissement est passé à 800 ouvriers, mais qui travaillent toujours pour la marine, qui travaillent toujours pour l'armement des bateaux.
Et à ce moment-là, est-ce que vous suivez l'actualité internationale, et je pense en particulier à la montée du nazisme en Allemagne?
Ah, mais bien sûr. Ça, il en était fort question dans les ateliers. Les discussions entre les ouvriers portaient beaucoup sur le fascisme, quoi. Le fascisme, sur la guerre d'Espagne, et puis la montée du fascisme en général, quoi.
Est-ce qu'on peut résumer les opinions qui régnaient en un mot? Est-ce qu'elles étaient favorables aux républicains espagnols? Est-ce quel était l'avis sur le Hitler et sa prise de pouvoir?
Ça, évidemment, tous les ouvriers étaient favorables, comment dirais-je, à la lutte même contre le fascisme, quoi. D'ailleurs, la suite l'a prouvé, puisqu'il y avait pas mal d'ouvriers d'Orwell qui ont payé de leur vie leur lutte politique de cette époque.
Et est-ce que dans votre travail, cette montée, cette tension qui apparaît entre les États en Europe se ressent? À savoir, est-ce que votre travail pour l'armement, est-ce que vous ressentez une montée en puissance et que l'armement prend le pas sur la diplomatie?
Ah, bien, à ce moment, l'armement, je ne sais pas, par rapport aux autres pays, je ne peux pas dire exactement ce qu'il en était. Donc, vous savez, on travaillait, on construisait ces canons, enfin, mais je ne peux pas vous dire par rapport aux autres pays si.
Est-ce que le rythme de la production a été plus intense à partir d'une certaine période, ou est-ce qu'il s'est maintenu?
À cette époque, il s'était maintenu. Oui, on peut dire que... Non. C'était ça. La production a toujours été la même. Parce que c'était fonction des bateaux de guerre. Alors, les bateaux de guerre, en 37, ils s'en construisaient pas beaucoup.
Dans certaines industries d'armement, il y avait une certaine méfiance pour les ouvriers et qui était favorable au Front populaire et favorable à la paix. Dans certaines industries, on a pu constater qu'il y avait une forte méfiance et que la confiance n'était pas, ne régnait pas. Est-ce que vous ressentiez cela ? Est-ce que les grands patrons de cette industrie, les directeurs, surveillaient la production afin que celle-ci ne soit pas sabotée, puisque dans certaines industries, c'est ce qu'on a craint.
Écoutez, j'étais un peu jeune pour me rendre compte de la marche de l'établissement. Vous savez, on s'en occupait pas beaucoup. L'âge où j'étais, en 17 ans, on s'occupe pas beaucoup de ces choses-là.
Vous l'avez pas ressenti ? Non, le surveillance particulière.
Non, j'étais trop jeune, quoi. Donc, j'étais très jeune. Bon, j'ai ressenti l'effet politique de la situation, bien sûr, par la guerre d'Espagne, par le fascisme, dont j'ai beaucoup entendu parler, d'Hitler, de Mussolini, on en parlait beaucoup. En principe, toute la classe ouvrière, à ce moment-là, enfin, Arbel, tout au moins, était contre... le fascisme, quoi. Ça, j'en ai souvent entendu parler. Mais...
Est-ce qu'il y avait une certaine inquiétude à partir d'une période ? Est-ce que dans le milieu ouvrier, on s'inquiétait ?
On s'inquiétait de la guerre, à partir de 38, surtout. Surtout à partir de 38. 36, 37, tout ça, c'était très bien. À partir de 138, on a entendu beaucoup parler des accords de Munich. Et là, ça a commencé quand même à se sentir, quoi. Puis, déjà, les gouvernements ont également, enfin, tout au moins en 38 et 39, n'était pas ce qui était de 37-38, quoi, qui était à l'avant-garde de la situation, quoi. Bon, la guerre, c'est aussi si. D'ailleurs, quand on a vu que le fascisme, enfin, prenait de l'importance en Espagne quand Franco a pris. Alors là, quand même, il y a eu une prise de conscience dans la classe ouvrière, quoi, qui a senti que ça risquait d'aller beaucoup plus loin.
Est-ce que vous étiez syndiqué ? Est-ce que vous êtes engagé politiquement ?
Ah bien non, parce que les syndicats, on était syndiqué à partir de 18 ans. En tant qu'apprenti, on n'était pas syndiqué. Et même les ouvriers nous déconseillaient quand il y a eu des grèves. En 37 et tout ça, il y a eu des grèves, mais les ouvriers nous déconseillaient de faire la grève. Les apprentis, non, ils ne voulaient pas que... Non. Politiquement, non, je n'ai pas... Évidemment... J'étais avec les autres ouvriers, disons, comme on dit maintenant, beaucoup de gauche, quoi. Bien sûr, on peut pas... J'avais entendu parler de l'exploitation des ouvriers par les grandes sociétés et tout ça. Bon, on était ce qu'on appelle de gauche, quoi. On était pour les républicains espagnols, disons. Pour nous, ça a été quand même une catastrophe qu'il soit battu et que Franco arrive au pouvoir. Ça, là, évidemment, on dit que en 1938, là, l'accord de Munich, déjà, on parlait de la guerre. Et pour beaucoup, il faut le dire, que 38, les accords de Munich ont été un soulagement. Et malheureusement, n'a pas subsisté.
Dans le milieu ouvrier aussi, ça a été un soulagement, ces accords de Munich. Il y a des gens qui ont été favorables.
Oui, dans les milieux syndicalistes, oui. Ah oui, à l'époque, oui.
Vous arrivait-il de rejoindre Nontron ?
Ah oui, ça, j'y allais toutes les semaines. J'y allais passer le samedi et le dimanche. On n'entendait pas de samedi, j'y allais passer le samedi et le dimanche. J'allais chez mes parents à ce moment-là, quoi.
Et est-ce que vous ressentiez clairement une différence de niveau de vie entre le Nontronné et la région de Ruelle ?
Ah oui, nettement. Nettement. Nettement, Ruelle, quand même, c'était une ville, disons, je l'ai dit tout à l'heure, relativement aisée. Relativement aisée. Il y avait des ouvriers qui pouvaient faire construire leur maison. Il y avait les radios à ce moment-là, partout. Alors qu'à la campagne, dans le Nontronné, les radios, il n'y en avait pas. Enfin, je pense de ce fait, c'est tout. Parce que, mais pour le reste, c'est pareil. Pour, disons, la vie en général, quoi. La vie en général était certainement meilleure à Ruelle que dans le Nontronné, c'est sûr.
Il y avait plus de confort à Ruelle que dans le Nontronné.
Oui. Ah oui, nettement, même les ouvriers de Nontron ne pouvaient pas se permettre d'avoir le confort qu'avaient les ouvriers à Ruelle. Je dis, à Ruelle, vous avez pas mal d'ouvriers et qui pouvaient faire construire leur maison. Et qui l'ont fait à ce moment-là, qui ont fait construire leur maison à ce moment-là. C'était relativement aisé, quoi.
Pour prendre un exemple simple de confort, est-ce que vous avez le souvenir de l'électrification ? Est-ce qu'il y avait l'électricité à Ruelle ? Est-ce que vous...
Ah oui, ça, l'électrification, alors ça existait. Oui, l'eau courante, ça existait. Ah oui, ça existait, ça s'est construit, enfin l'eau courante... Ah ben oui, elle était déjà en 38, par exemple, ça oui.
Et dans le Nontronné, c'était équivalent ?
Ah ben non, le Nontronné, la ville de Nontron, oui, mais la campagne, non, la campagne, il fallait encore tirer l'eau au puits.
C'était le cas chez votre mère ?
Non, parce que la ferme qu'ils avaient... Elle était au champ de foire de Nontron, c'est-à-dire c'était quand même un quartier un peu en dehors de la ville, mais qui avait quand même toute l'électricité, l'eau courante, enfin l'eau courante, la borne dans la rue. La borne dans la rue, à ce moment-là. On tirait l'eau à une borne dans la rue, remarqué dans tout Nontron d'ailleurs. Là. L'eau courante dans Nontron, je ne sais pas quelle année elle était existée, mais enfin, à ce moment-là, c'était des pompes dans la rue, quoi.
Et à Ruelle, est-ce que les conditions de travail pour vous étaient difficiles ? Comment les qualifieriez-vous ?
Oh, extra conditions de travail, non, on ne peut pas dire qu'elles étaient, non, qu'elles étaient difficiles. Il fallait faire son travail, bien sûr. On était, comment dirais-je, en tant qu'apprenti, évidemment, on était déjà payé. En tant qu'apprenti, on était déjà payé, évidemment. Bon, c'est pas gros, mais enfin, c'est quand même, c'était pour nous, c'était important. C'était important. Et je vous dis, les salaires étaient vraiment par rapport à la Charente, la Dordogne, tout ça, les salaires étaient nettement plus élevés que... puisqu'on était basé sur la région parisienne, quoi.
Et les conditions de travail à la ferme que vous pouvez comparer, c'était plus difficile ?
Ah, voilà. Les conditions de travail à la ferme étaient nettement plus dures que le travail à la fonderie d'Orvel, c'est sûr. À la campagne, à l'époque, il fallait tout faire à la main, à la ferme, les foins, les moissons, sa provision de bois, tout ça. C'était, d'ailleurs, moi, quand j'allais chez mes parents le samedi et le dimanche, c'était aussi pour travailler, quoi. C'était aussi pour donner la main.
Donc, vous travaillez quasiment constamment presque.
Ah oui, oh, je ne peux pas dire que c'était très dur. Pas très dur. Non, enfin, j'avais des moments de libre. J'ai, par exemple, le dimanche, bon, j'ai joué au rugby en 39, 40, 41, quoi. Je vais le dimanche quand même de libre. Enfin, il y avait des moments où il fallait donner un coup de main à la ferme, quoi. C'est surtout ça.
Et vous jouez au rugby dans quelle équipe ? À Ruel ?
L'équipe de Nontron. Ce n'était pas une grande équipe. C'était une équipe. Je ne me rappelle plus la division. Quoi. Mais vous trouverez là-dedans le nom de la résistance. C'est Boucharel. Vous avez peut-être entendu parler de lui, avec qui j'ai joué au rugby. Il habitait la région de Nontron. Il était instituteur à Champeau. Et il venait jouer au rugby à Nontron. C'est lui d'ailleurs qui nous dirigeait en quelque sorte.
C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. La prochaine partie de cette émission sera diffusée la semaine prochaine.